chers amis, pour celui qui met sa confiance en Dieu et en Dieu seul, alors son espérance ne saurait être déçue. Car Dieu est fidèle, il ne nous laisse pas tomber, même si notre foi et notre espérance peuvent parfois être mises à rude épreuve, comme nous l'avions vu la dernière fois avec Abraham. Abraham a en effet attendu plus de 25 ans la réalisation de la promesse de Dieu d'avoir un fils. Quant à la terre promise, il y est demeuré en étranger, il ne l'a pas possédée lui-même. Ce sont ses descendants qui en ont pris possession 400 ans plus tard, après la sortie d'Égypte. L'espérance a donc besoin de constance et elle a besoin d'être purifiée par l'épreuve. De même que l'épreuve vérifie la qualité de notre foi, de même, l'épreuve vérifie la qualité de notre espérance. Car la vraie espérance théologale, non le petit espoir humain, se manifeste vraiment quand précisément il n'y a plus d'espoir humain. Il s'agit alors d'espérer contre toute espérance, ce qu'a fait Abraham, ce qu'a fait la Vierge Marie aussi au pied de la croix. L'ange lui avait dit « Tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. » Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Or Marie assiste à la mort cruelle de son fils. Elle a devant les yeux le démenti apparent de la promesse de l'ange. Et pourtant Marie, même si elle a pu passer par une sorte de nuit intérieure, n'a pas désespéré, car elle n'a pas perdu foi en la parole de l'ange ni en celle de son fils qui avait annoncé la résurrection. Marie a levé les yeux et devant son fils mourant, elle a vu prophétiquement l'accomplissement des promesses divines, la rédemption et la royauté de son fils, non pas une royauté mondaine sur le pays d'Israël, mais une royauté de miséricorde, une royauté spirituelle qui s'étendrait au monde entier. Son regard s'est élevé à la hauteur des promesses spirituelles de Dieu. Alors que les apôtres, qui n'avaient pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit, ont achoppé. Ils ont vu en Jésus crucifié l'échec de sa mission, alors que c'était son apothéose, la victoire de l'amour. Ils avaient encore une perception mondaine des choses, un regard qui s'arrêtait à la dimension terrestre, matérielle des événements. Et donc ils n'ont pas su reconnaître la merveilleuse espérance qui se levait au sommet du Golgotha. Ils n'ont vu que la mort et ils ont été pris de désespoir. Le bienheureux cardinal Wyszynski faisait un jour cette remarque pertinente. Un proverbe polonais dit que l'espérance est la mère des fous. Et moi, je vous dis que l'espérance est la mère des sages qui voient loin. Dire que l'espérance est la mère des fous, ça peut se comprendre selon l'esprit du monde. Surtout quand on est dans le cas d'une espérance contre toute espérance. Aujourd'hui, allez dire aux gens, même parfois à des chrétiens, « Réjouissez-vous, relevez la tête, car le Seigneur vient, votre délivrance est proche, le Christ est vainqueur, il est à nos portes, il vient établir son règne dans tous les cœurs. » Eh bien, on peut vite vous prendre pour un fou, n'est-ce pas? Mais si vous avez la pensée du Christ en vous, si vous avez laissé l'Esprit-Saint renouveler votre intelligence, alors l'espérance n'est pas une folie, bien au contraire, elle devient la vraie sagesse, la sagesse de ceux dont le regard ne s'arrête pas à ce qui est visible dans ce monde, mais à ce qui est spirituel et qui vient. Il s'agit de voir au-delà de la chair, de contempler avec les yeux de la foi les réalités encore invisibles, mais cependant annoncées. En fait, il nous faut toujours passer de la fausse espérance à la vraie espérance, des espoirs humains à l'espérance théologale qui a Dieu pour objet. Et ce chemin, le peuple juif a dû le parcourir pour passer d'une espérance matérielle, l'espérance des biens de la terre promise, de la prospérité, de la puissance, etc., à une espérance meilleure par laquelle nous approchons de Dieu, comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. En effet, Israël a souvent oublié, et peut-être qu'il oublie encore aujourd'hui, qu'un avenir heureux ne peut être qu'un don de Dieu, et non pas quelque chose qu'on obtient à la force du poignet, ou pire, par la violence. Dans le livre d'Osée au chapitre 2, Dieu dit à propos d'Israël son épouse infidèle. Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnais le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, qui lui prodiguais cet argent et cet or qu'ils ont employé pour Baal, c'est-à-dire pour les idoles, les faux dieux. Le Seigneur a toujours dit à son peuple, par la bouche des prophètes, qu'il lui donnerait tous les biens de la terre, mais aussi la paix et la sécurité à ses frontières, pourvu qu'Israël lui soit fidèle. Et quand les biens viennent à manquer, ou quand les ennemis menacent Israël, au lieu de se repentir de son infidélité et de revenir à Dieu, Israël tente de s'assurer cet avenir heureux promis par Dieu, comme le font les nations, à la manière des nations pécheresses, par l'idolâtrie, par la puissance, par les alliances politiques avec les nations environnantes. N'est-ce pas ce que l'on voit aujourd'hui ? Israël essaye d'obtenir par la force la puissance de feu, les armes, les destructions, les massacres et les alliances avec des pays protecteurs, l'assurance d'un avenir heureux. Il pense, par ses moyens charnels, pouvoir reconstruire le temple, s'assurer la paix et la sécurité, et même étendre son territoire au détriment des peuples alentour. Il manifeste ainsi qu'il ne met pas son espérance en Dieu. Il n'attend pas de Dieu la réalisation de ce qu'il espère, mais il s'attache à des espoirs humains et il veut les réaliser lui-même. Au lieu de se repentir de ses péchés devant la face de Dieu, de reconnaître les situations d'injustice qu'il a favorisées et d'implorer la miséricorde de Dieu pour recevoir le don de la paix et de la sécurité, il part en guerre contre tous ceux qui l'entourent. Mais c'est un espoir vain. Cela ressemble à Abraham qui, au lieu d'attendre de Dieu le fils de la promesse, veut le concevoir lui-même et va vers la servante Agar pour avoir un fils de cette relation. Mes amis, Dieu ne demande pas que nous nous agitions dans tous les sens et avec nos moyens humains pour réaliser la promesse qu'il nous a faite. Il nous demande la confiance, l'espérance, la fidélité et le repentir de nos fautes. Et les prophètes dans l'Ancien Testament ont toujours dénoncé les espérances fausses et illusoires. En Jérémie, au chapitre 8, verset 15, nous lisons le constat désabusé d'Israël. « Nous espérions la paix et rien de bon, le temps de la guérison et voici l'épouvante. » Mais ceci est la conséquence d'une espérance mise dans les hommes, dans les armes, dans les alliances avec les nations, au lieu d'une espérance mise en Dieu seul. Dans Ésaïe au chapitre 30, nous lisons encore « Malheur à ceux qui vont chercher des secours en Égypte, qui s'appuient sur l'ombre de Pharaon pour se réfugier. Leur secours sera pour eux une honte et la protection de l'ombre de Pharaon une confusion. » Hier, c'était l'Égypte. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis ou d'autres pays complaisants. Mais c'est la même logique et donc le même reproche que Dieu pourrait faire. Dans Jérémie, nous avons encore ce reproche du Seigneur. « Pourquoi donc, en voyant ta conduite, as-tu pris le chemin de l'Égypte pour boire aux eaux du Nil ? Et pourquoi as-tu pris le chemin de la Syrie pour boire aux eaux de l'Euphrate ? Ta malice te corrigera et tes infidélités te réprouveront, dit le Seigneur. » Ces passages reflètent la critique de Dieu envers les alliances politiques ou militaires d'Israël avec des nations païennes, qui sont vues comme un signe de manque de foi en Dieu et une forme d'infidélité spirituelle. Dieu désire que son peuple lui fasse entièrement confiance et se détourne des puissances étrangères et des moyens humains pour parvenir à ses fins. Et s'il ne le fait pas, s'il continue à chercher sa force en lui-même ou dans les puissances étrangères, eh bien c'est le malheur qui risque de fondre sur lui. Au chapitre 13 de Jérémie, Dieu, à travers le prophète, se plaint et menace Israël pour ses espérances vaines, fruits de son orgueil. « Écoutez, tendez l'oreille, plus d'orgueil, c'est le Seigneur qui parle. Rendez gloire au Seigneur votre Dieu avant que ne viennent les ténèbres. Vous comptez sur la lumière, mais il la réduira en obscurité. Si vous n'écoutez pas cet avertissement, je pleurerai en secret pour votre orgueil, dit le prophète. Mes yeux laisseront couler des larmes, car le troupeau du Seigneur part en captivité. » La paix est un don qui se reçoit. Encore faut-il être assez humble et uni à Dieu pour le comprendre. Et cette paix dépend de la fidélité du peuple. Sans la fidélité à l'Alliance, il est vain d'espérer la paix ou le salut. Et c'est même à la colère et au jugement de Dieu que le peuple s'expose. Et Dieu peut alors permettre l'épreuve de l'exil, des défaites militaires, de la désolation, pour ramener son peuple à une confiance renouvelée en lui. Et oui, il faut parfois toucher du doigt sa propre impuissance et sa propre misère pour enfin faire teshua, c'est-à-dire se repentir, revenir au Seigneur et se jeter dans ses bras. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, nous avons la lamentation du peuple d'Israël condamné à l'exil après ses fautes. « Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous. » Mais quelle espérance est détruite? Ce sont seulement leurs fausses espérances, leurs espérances humaines qui sont détruites. Et le Seigneur va leur dire que la seule espérance qui ne décevra jamais, c'est l'espérance en lui, en sa miséricorde. C'est ceci la vraie espérance. Et Dieu demande à son prophète d'annoncer la restauration dont lui seul, Dieu, sera l'artisan. Ainsi parle le Seigneur Adonai. Voici que j'ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux. Et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. » Voyez, c'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur seul qui œuvre à la restauration de son peuple et qui redonnera la terre à Israël. C'est bien différent que de vouloir s'accaparer une terre par la spoliation ou les armes. Quand Israël devient charnel, il enfante des œuvres de mort et mérite le châtiment divin. Mais quand Dieu corrige son peuple, c'est pour qu'il soit sauvé, et donc il ne le laisse pas sans l'espérance du salut. Dans le livre de Jérémie, alors qu'Israël est soumis au châtiment, le Seigneur, par la voix du prophète, vient relever l'âme abattue d'Israël. « Car je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, oracle du Seigneur, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. » Le châtiment du Seigneur a donc pour objectif non pas d'écraser son peuple, mais de le convertir, de le ramener à l'unique espérance fiable, l'espérance spirituelle, l'espérance en Dieu et non dans les idoles de ce monde. La puissance, les alliances militaires, etc. Mais pour cela, il faut revenir au cœur. Et la souffrance fait revenir au cœur, et en ce sens, elle est salutaire. On le sait bien, n'est-ce pas? Combien de fois dans notre vie, la souffrance nous a fait revenir à notre cœur, à une relation profonde avec le Seigneur. À partir du moment donc où Israël revient vers son Seigneur et se met à le chercher de tout son cœur, alors Dieu peut se pencher aux oreilles d'Israël pour lui murmurer comme il le fait au chapitre 31. « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Voyez, c'est très consolant en même temps, car l'infidélité même d'Israël ne doit pas l'empêcher d'espérer. Et pour nous personnellement, c'est pareil. Ce n'est pas parce que nous avons chuté, fait le mal, que nous devons désespérer. Et pourquoi? Parce que Dieu est amour, il est miséricorde, et qu'il est tout disposé à pardonner quand il est devant un vrai repentir. Alors certes, le salut peut tarder, mais il est certain. Et il s'agit de croire en cette miséricordieuse bonté du Seigneur, car elle viendra, et elle viendra car le Seigneur est fondamentalement l'espérance d'Israël, comme Jérémie nomme le Seigneur au chapitre 14. Et le Seigneur est lui seul est notre espérance, celle qui ne nous décevra jamais. Dans la Bible, nous voyons comme une pédagogie du Seigneur qui essaye d'élever son peuple à une espérance meilleure, comme je le disais tout à l'heure. Alors, certes, Dieu promet à Israël des biens temporels s'il est fidèle. La terre, la prospérité, la sécurité, tout cela vu comme bénédiction divine. Mais c'est pour l'ouvrir à une dimension plus haute, à une espérance plus haute, non point l'espérance d'un bonheur temporel, mais l'espérance de la connaissance de Dieu. Et les prophètes ont beaucoup contribué à faire naître dans le peuple hébreu cette soif de Dieu qui seul peut rassasier l'âme. Et d'ailleurs, au chapitre 2 de Jérémie, le Seigneur montre sa déception quand le peuple ne s'élève pas à cette hauteur, quand il préfère l'esclavage des assurances humaines plutôt que la liberté et l'espérance pleine de gloire des enfants de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. En quoi vos pères m'ont-ils trouvé injuste pour s'être éloignés de moi, pour marcher derrière la vanité et devenir eux-mêmes vanité? Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Voyez, le risque de s'accrocher à des espérances illusoires, ce n'est pas seulement d'être déçu, mais c'est de se rabaisser soi-même au niveau des idoles. C'est de devenir vanité, c'est déchoir de sa grandeur, car l'homme a été créé à l'image et ressemblance de Dieu, et non à l'image des idoles de ce monde dans lesquelles la tentation est si forte de mettre son espérance. Celui qui se détourne des eaux vives de la grâce, pour se creuser des citernes, pour engranger la sécurité par lui-même, manifeste qu'il n'est pas l'intime de Dieu, mais qu'il est déchu de sa haute noblesse. Créé pour l'union à Dieu, il se retrouve englué dans les choses de ce monde. Le bienheureux cardinal Wyszynski, encore lui, le disait autrement dans un langage plus actuel. « Ce ne sont pas tes relations avec des gens influents, ton argent ni tes biens qui témoignent de ton utilité et de la valeur dans la vie, mais ton cœur bon et pur qui aime Dieu et les autres. » En fait, il y a comme un hiatus entre ce que vit le peuple hébreu en général et ce que Dieu, à travers les prophètes, l'invite à vivre. Autant pour les prophètes, l'espérance d'Israël et des nations, c'est Dieu lui-même et son règne. Autant pour le peuple, l'espérance reste encore celle d'un bonheur temporel et collectif, être en paix sur sa terre. Seulement cette espérance d'un bonheur temporel, elle se heurte au scandale de la souffrance, et notamment de la souffrance du juste. Comment se fait-il en effet que parfois le juste puisse ne pas être récompensé par une vie de bénédiction temporelle sur la terre? L'exemple de Job est comme une pierre d'achoppement pour la piété juive. Mais cette souffrance va aussi pousser le peuple juif à lever le regard par-delà cette vie terrestre. L'espérance du salut personnel, de la rétribution personnelle, par-delà les afflictions vécues sur cette terre, va donc émerger petit à petit, surtout chez les sages, les pieux et les martyrs. Dans le livre de Daniel au chapitre 12, nous rencontrons cette espérance non plus charnelle, mais eschatologique. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Les doctes resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre comme les étoiles, pour toute l'éternité. Et dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 7, nous avons cet épisode bien connu du martyr des sept frères et de leur mère, et nous voyons bien que leur espérance n'est plus une espérance mondaine. Ils aspirent à la résurrection pour la vie éternelle. Écoutons ce que le premier des sept frères dit au tyran qui leur demande de renoncer à la loi de Dieu en mangeant du porc notamment. « Nous sommes prêts à mourir plutôt que d'enfreindre la loi de nos pères. » Et après qu'il a été torturé et tué, le deuxième frère dit au persécuteur « Scélérat que tu es, tu nous exclus de cette vie présente. » Mais le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. Voyez, cette espérance devant la mort ne repose que sur Dieu seul, et c'est pourquoi elle ne sera pas déçue. De même, désormais, la souffrance endurée par le juste n'est plus vue comme un signe de malédiction, de réprobation de la part de Dieu, comme les amis de Job essayaient de l'en convaincre. Et on le voit à la réponse qu'un des frères fait au tyran. « Tu as, quoique corruptible, autorité sur les hommes, tu fais ce que tu veux. Ne pense pas, cependant, que notre race soit abandonnée de Dieu. Pour toi, prends patience et tu verras sa grande puissance, comme il te tourmentera, toi et ta race. » Nous sommes bien là dans une théologie de la rétribution. Le mal fait sur cette terre aura des conséquences pour l'éternité, de même que le bien fait par le juste sera récompensé par Dieu. Et donc, l'espérance du juste est fondée sur la justice de Dieu qui se fait le rétributeur de ses serviteurs. Le dernier des frères, dont l'espérance ne faiblit pas devant l'exécution de ses six frères, rappelle lui aussi le jugement qui attend les bons et les mauvais après la mort. Il a conscience que si ce malheur, le malheur de la persécution, est advenu, c'est à cause des péchés de la nation, et il espère que le sacrifice de sa vie et celle de ses frères sera le dernier, et qu'ainsi s'arrêtera ce déchaînement de la violence. Toi, ô impie, et le plus infect de tous les hommes, ne t'élève pas sans raison, te berçant de vains espoirs, et levant la main contre ses serviteurs, car tu n'as pas encore échappé au jugement de Dieu qui voit tout et qui peut tout. Quant à nos frères, après avoir supporté une douleur passagère en vue d'une vie intarissable, ils sont tombés pour l'alliance de Dieu, tandis que toi, par le jugement de Dieu, tu porteras le juste châtiment de ton orgueil. Pour moi, je livre comme mes frères mon corps et ma vie pour les lois de mes pères, suppliant Dieu d'être bientôt favorable à notre nation et de t'amener par les épreuves et les fléaux à confesser qu'il est le seul Dieu. Ce jeune homme n'a pas seulement l'espérance de la vie éternelle pour lui-même et ses frères, mais il a aussi l'espérance du jugement du tyran et de la délivrance de son peuple, et ceci dans la fournaise de l'épreuve. Je vous avais dit que l'espérance a toujours besoin d'être purifiée. Là, nous en avons un exemple particulièrement édifiant, où la foi en Dieu permet de trouver en soi les ressources d'une espérance contre toute espérance, une espérance pour l'éternité. Ces martyrs manifestent que Dieu est pour eux plus important, non seulement que les biens de ce monde, mais aussi plus important que leur corps et que leur vie ici-bas. Ce qu'ils veulent, c'est rendre un culte parfait à Dieu, car Dieu mérite qu'on lui sacrifie tout. Et parce qu'ils ont tout sacrifié, ils peuvent tout espérer de Dieu. Nous sommes déjà très proches des paroles de saint Paul qui disait « La légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire, à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. » Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps. Les invisibles sont éternelles. Nous sommes bien là devant le secret de l'espérance. Regarder aux choses invisibles et non pas aux visibles. Faire comme Moïse, dont il est dit dans la lettre aux Hébreux, qu'il avançait comme s'il voyait l'invisible. Voyez comme l'espérance d'Israël s'est petit à petit tournée vers les réalités d'en haut. Même si l'espérance des bénédictions de la terre et des réalités temporelles demeurait, il n'est que de voir l'aspiration du peuple juif à la restauration de la royauté davinique espérée en la personne du Messie, y compris chez les apôtres. Mais quand même, on voit une évolution. On est passé d'une espérance collective à une espérance plus personnelle, celle du salut. On est passé d'une espérance charnelle, si on peut dire, la victoire sur les ennemis, les bénédictions des fruits de la terre, une postérité, à une espérance plus spirituelle, la venue du Fils de l'homme qui apportera la paix et la justice. On est passé à l'espérance du vrai culte rendu à Dieu, à la connaissance du Seigneur répandue sur toute la terre et surtout à l'espérance du salut éternel, d'un repos en Dieu qui ne sera pas sur cette terre mais dans l'immortalité bienheureuse. Dieu se préparait un peuple bien disposé pour recevoir son Fils à travers les enseignements des sages d'Israël. Ainsi, nous avons la figure d'Hillel, un maître en Israël qui enseignait la Torah à Jérusalem au temps d'Hérode et que peut-être Jésus a connu. Or, ce grand rabbin Hillel ne désirait qu'une chose, rapprochez tout homme de la Torah, afin que tous mettent leur espérance en Dieu. » On raconte cette anecdote. Un jour, Hillel se tenait à la porte de Jérusalem au moment où les hommes allaient à leur travail. Il leur dit « Combien gagnerez-vous aujourd'hui ?» L'un dit « 1 denier, l'autre 2. » Il leur demanda « Et cet argent, qu'allez-vous en faire ?» Ils répondirent « Subvenir aux besoins du moment pour vivre. » Il leur dit « Ne voulez-vous pas plutôt hériter de la Torah ? Vous hériterez alors de la vie en ce monde-ci et la vie dans le monde futur. » Voyez comme le grand rabbin Hillel oriente l'espérance des hommes vers les biens à venir, vers la vie spirituelle, vers Dieu qui comble ses serviteurs. Toute sa vie, Hillel s'efforça, selon son expression, de faire entrer les hommes sous les ailes du ciel. Il attendait le monde à venir, ce monde qui déjà germe sur la terre par la mansuétude, la pureté de cœur et la piété envers Dieu. Cette espérance d'Israël qui a Dieu pour objet, elle va trouver son accomplissement en la personne de Jésus, le désiré des collines éternelles, selon l'antique prophétie de Jacob sur son lit de mort. Jésus est en effet le bien-aimé attendu, espéré, destiné à combler la soif des hommes, leur espérance la plus profonde et la plus haute. Dans le Cantique des Cantiques, nous avons l'expression poétique et amoureuse de cette attente. « Sur ma couche la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. » Eh bien, dans la nuit de notre monde enténébré, continuons nous aussi à chercher le bien-aimé. Car s'il est déjà venu, il vient encore. Et nous qui espérons en lui, nous ne serons pas déçus. Nous verrons la semaine prochaine combien Jésus est l'unique espérance, non pas seulement d'Israël, mais de l'Église, son épouse bien-aimée. Paul, dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, nous parle de l'espérance. Une espérance qui naît de la foi et qui a pour objet rien de moins que la gloire de Dieu. « Ayant reçu, dit-il, notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Avec la venue de Jésus, nous passons vraiment à une espérance spirituelle. Jésus, en effet, n'est pas venu pour satisfaire les espoirs temporels de son peuple, mais pour le tourner vers l'espérance de Dieu même, l'espérance du royaume des cieux. Ses premières paroles, quand il revient en Galilée après son baptême et la tentation au désert, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Il n'est donc pas là pour restaurer la royauté davinique. Il est venu pour sauver le monde. Il annonce la vraie espérance, celle du royaume de Dieu et non de David. On est donc ici dans une perspective de salut, d'où la nécessité du repentir, la nécessité de reconnaître que nous ne sommes pas parfaitement ajustés à l'amour de Dieu, à sa volonté, et qu'il nous faut donc nous purifier au niveau de nos pensées, de nos désirs, de nos volontés propres, si on veut pouvoir accueillir le royaume des cieux, c'est-à-dire la pleine communion avec Dieu dans l'Esprit Saint. Ce que Jésus dit au peuple d'Israël, c'est qu'il doit accepter que son espérance, pour être comblée, renonce à tout l'aspect matériel de son attente. En fait, il ne sape pas l'espérance de son peuple, mais il l'oriente vers les biens supérieurs. Il lui fait désirer le royaume des cieux qui est la vie trinitaire. Dans Saint Luc au chapitre 17, alors que les pharisiens lui demandent quand viendra le royaume de Dieu, Jésus leur répond « Le royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et l'on ne dira pas « Voici, il est ici » ou bien « Il est là », car voici que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Et dans le chapitre 14 de Saint Jean, nous avons les dernières paroles de Jésus à ses disciples, où il manifeste le dessein bienveillant de Dieu. En quoi consiste le royaume de Dieu ? La gloire à laquelle ils sont appelés, eux et tous les hommes pour lesquels Jésus va donner sa vie. « Si quelqu'un m'aime, dit-il, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure en lui. » Le royaume des cieux qui seul pourra combler l'espérance non seulement d'Israël, mais de tous les hommes, c'est donc cette réalité intérieure de la communion avec Dieu. Quand Jésus s'adresse à son Père dans son ultime prière avant la Passion au chapitre 17 de Saint Jean, il dit « Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. » Or, où est Jésus ? Jésus est dans le Père, comme le Père est en lui. Et donc il désire que tous nous soyons en lui, comme lui est dans le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. C'est cela la gloire à laquelle il nous appelle. Il veut nous rendre participants de sa vie divine et donc de sa vie dans le Père. Vraiment, nous n'avons pas idée de l'immensité du don de Dieu, de ce qu'il a préparé pour nous, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, comme le rappelle saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Alors vous comprenez pourquoi Paul, ébloui par ce qu'il a déjà entrevu de la gloire promise, s'exclame « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu ». Certes, on pourrait penser qu'il est bien audacieux, ce Paul, à vouloir se glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu alors qu'il est encore sur terre. Oui, mais saint Paul sait que par la foi, il a été justifié, et donc qu'il a été établi dans la grâce de Dieu, et donc qu'il peut espérer cette gloire divine, car elle a été promise par le Dieu fidèle à ses serviteurs fidèles. Voyez comme l'espérance de saint Paul s'est hissée à la hauteur des promesses de Dieu. Désormais, il est prêt à tout sacrifier, y compris tous les biens, les espoirs temporels qu'il pouvait avoir auparavant. Dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3, on voit l'orientation fondamentale de son cœur vers les réalités célestes. « Désormais, je considère tout comme désavantageux, à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur, dit-il. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui. Le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir si possible à ressusciter d'entre les morts. Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. » On peut dire que saint Paul se laisse aimanter par le Seigneur. Son espérance le meut à tel point que plus rien ne peut l'arrêter dans cette course vers le Seigneur. « Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendue de tout mon être et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. L'espérance de saint Paul, qui doit aussi être la nôtre, celle de toute l'Église épouse, c'est d'être avec Jésus, l'époux bien-aimé qui nous a préparé une place et qui se languit de nous. Puissions-nous nous languir de lui avec la même ardeur que lui se languit de nous, avec la même ardeur aussi que saint Paul, qui est prêt à tout perdre pour le gagner lui, même au prix de toutes les souffrances ici-bas, ces souffrances qui lui apparaissent comme néant au regard de la gloire attendue qui est si grande. Saint Paul sait bien que le chemin du ciel ne peut faire l'économie de la croix. C'est par la croix que le Seigneur est monté aux cieux. C'est par la croix aussi que nous y montons. Cette croix n'étant pas forcément les persécutions et le martyre, comme dans le cas de Paul, mais étant les petites contrariétés de tous les jours, la pauvreté, l'insécurité, les maladies, les infirmités physiques, psychiques, morales, spirituelles qui nous handicapent. Se supporter soi-même dans sa faiblesse et supporter les autres dans leur faiblesse, c'est la croix que le Seigneur nous invite à porter joyeusement, par amour pour lui qui a tout sacrifié, y compris sa vie, par amour pour nous. Quand on regarde les choses à l'aune de l'amour et de l'espérance promise, la vie avec lui, alors tout le reste semble de peu de poids, et même les souffrances, les pertes de tout ce à quoi nous sommes attachés. Car de fait, tout finira de cette vie, mais celle qui nous attend nous dédommagera au centuple. Ici, c'est la vie marquée par la mort, mais au ciel, ce sera la plénitude de la vie glorieuse des enfants de Dieu. Toujours au chapitre 3 de sa lettre aux Philippiens, saint Paul s'afflige de ceux qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ, dans le but de sauver leur chair. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettent leur gloire dans leur honte. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Saint Paul les invite et nous invite tous, car malheureusement nous sommes tous aimantés par les choses terrestres, alourdis par nos désirs humains, trop humains. Saint Paul nous invite donc à lever le regard vers le vrai bien, celui qui demeure pour l'éternité. Pour nous, dit-il, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre toutes choses. La résurrection du Christ est donc la résurrection des morts, puisque le Christ premier ressuscité annonce ce qui nous attend, est un des motifs principaux de l'espérance de Paul. D'ailleurs, regardez autour de vous, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui n'espèrent pas la résurrection des morts, eh bien, ils ne possèdent pas l'espérance qui remplit l'âme de joie. Certes, ils peuvent vivre ici-bas avec des contentements, des ersatz, des simulacres de bonheur, mais ils seront incapables de garder la joie jusque dans l'épreuve. Ils trembleront devant la maladie et la mort. Il y a 2000 ans, saint Paul faisait le même constat et exhortait les fidèles de Thessalonique à percevoir désormais la mort non plus comme la fin de tout, mais comme la porte d'entrée vers l'éternelle joie. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Ainsi nous serons avec le Seigneur toujours. » Voyez, pour saint Paul, ne pas croire en la résurrection, c'est être sans espérance. Et d'une manière plus large, vivre sans Dieu, c'est vivre sans espérance. Il le redit aux Éphésiens. « Rappelez-vous, leur dit-il, qu'en ce temps-là, c'est-à-dire avant leur conversion, vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. » Et d'ailleurs, il nous faut avoir bien de la compassion pour ceux qui sont sans le Christ, sans Dieu, car ils sont sans espérance, même s'ils essayent de donner le change par des illusions, des pseudo-joies de ce monde. Prions pour eux pour qu'ils se tournent vers Dieu et qu'ils connaissent la véritable espérance à laquelle ils sont appelés. C'était d'ailleurs la prière de saint Paul au Seigneur. « Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, les croyants. C'est beau et réjouissant de voir cet enthousiasme de saint Paul qui, dans ses lettres, utilise une abondance de superlatifs pour nous élever, nous attirer là où il semble déjà être par sa foi et son espérance immense. Il nous parle du ciel et des réalités à venir comme s'il les voyait. Et de fait, n'a-t-il pas été ravi jusqu'au troisième ciel pour contempler les merveilles du monde à venir, comme il le dit lui-même dans sa deuxième lettre aux Corinthiens ? J'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur, dit-il. Je connais un homme dans le Christ, et il parle de lui, qui, voici 14 ans, était-ce en son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au troisième ciel, jusqu'au paradis, et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Saint Paul s'est donc trouvé au paradis par anticipation. Il a pris part au conseil des anges, pourrait-on dire. Il a vu, entendu et compris l'indicible, l'ineffable, et les mots lui manquent pour traduire le fruit de sa contemplation. Il n'a plus que l'usage des superlatifs pour dire que ce qui nous attend est au-delà de tout, dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et c'est pour cela aussi qu'il affirme que pour lui, son désir serait de mourir pour être avec le Christ. « Pour moi, la vie, c'est le Christ, et mourir m'est un gain. » Notre pauvre Paul est déchiré intérieurement entre deux élans. D'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup bien préférable. Mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien, dit-il. Et c'est d'ailleurs ce qui le convainc de rester encore un peu pour être au service de ses frères. Voyez, son espérance du ciel ne lui fait pas oublier le primat de la charité. Il veut bien attendre encore un peu cette gloire du ciel pour fortifier dans la foi ses frères. En tous les cas, quand nous entendons saint Paul parler des réalités célestes, cela doit nous interpeller. Dans notre monde tellement matérialiste et viscéralement attaché à cette vie terrestre, l'exemple de saint Paul devrait nous réveiller et nous inviter à rechercher avec ardeur les réalités d'en haut, puisque c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu, comme saint Paul nous le redit dans sa lettre aux Colossiens. Et n'allons pas penser que l'espérance est seulement une espérance pour demain. Non, cette espérance de la gloire de Dieu, elle irradie notre présent. Elle nous transforme dès maintenant, car elle donne une certitude intérieure de ce qui vient. Et donc elle nous établit déjà maintenant dans la joie, l'action de grâce et la louange. Je ne dirais pas qu'elle nous fait voir la vie en rose, mais quand même, elle donne une coloration lumineuse et joyeuse à notre vie. Car de fait, nous avons reçu les arts et les prémices du monde à venir en recevant la foi et en recevant Jésus dans les sacrements et particulièrement dans l'Eucharistie. Alors notre espérance peut surabonder. Vers la fin de sa lettre aux Romains, saint Paul prie pour eux, et voici ce qu'il leur souhaite. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit-Saint. Et oui, notre espérance surabonde, car nous savons que nous sommes dans la main du Père et que personne ne peut rien arracher de la main du Père. Nous sommes pour toujours enveloppés de son amour prévenant, salvifique et sanctificateur. En fait, notre espérance est une réponse d'amour à l'amour de Dieu pour nous. Je vous avais déjà cité saint Jean de la Croix qui disait « On obtient de Dieu tout autant qu'on en espère ». Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aimait beaucoup reprendre cette pensée de saint Jean de la Croix. Elle en a fait d'ailleurs le soubassement de toute sa petite voix de confiance. C'est parce qu'elle espérait tout de Dieu qu'elle a tout obtenu. Et elle a eu l'audace de ne point mettre de frein, je dirais raisonnable, à ses aspirations. Non seulement elle a désiré et espéré devenir sainte, mais aussi docteur, missionnaire, martyr, pour l'amour et la gloire de Dieu. et le constat de sa propre pauvreté et misère ne l'a pas arrêté dans son espérance, car il s'appuyait sur Dieu et non sur ses propres forces, sur ses propres vertus. « J'ai toujours constaté, dit-elle, lorsque je me suis comparée aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Et cette petite voie, nous savons que c'est la voie d'une confiance et d'une espérance inébranlables en Dieu seul. « Ma vertu, c'est toi, dit-elle à Jésus. Elle ne s'attriste pas de ses manques. Elle sait que Dieu, dans son immense bonté, est assez miséricordieux pour suppléer à tout et transformer même le néant en feu d'amour. C'est pourquoi elle se livre à l'amour de Dieu, espérant de lui l'amour même dont elle veut l'aimer. Et elle a tout reçu, et même au centuple. Bienheureuse espérance qui donne des ailes pour rejoindre le Dieu de toute bonté qui nous attend, nous espère et nous attire. Nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Autrement dit, nous ne sommes pas sur un chemin sans issue, un cul-de-sac, dont l'extrémité serait la chute dans le gouffre de la mort, du néant. Non, nous sommes sur un chemin de vie et de vie éternelle. Quel bonheur de savoir que nous avançons à la rencontre du Seigneur. Si seulement nos contemporains percevaient ainsi la mort comme une Pâque, le grand passage vers la vie surabondante, la vie divine. Eh bien, pour terminer l'émission de ce jour, permettez-moi de vous rappeler la vie de la jeune Chiara Badano, béatifiée le 25 septembre 2010. Elle a été d'une manière merveilleuse un témoin de l'espérance, au cœur même de la maladie. Chiara naît comme un cadeau du ciel le 29 octobre 1971, unique enfant attendu 11 ans par ses parents Ruggero et Maria Teresa Badano. Elle grandit entourée de l'affection de ses parents, instruite de la foi. Puis elle rencontre le mouvement des Focolari et se lie d'amitié avec la fondatrice. Cette rencontre la transforme profondément, elle devient très pieuse, participe à la messe presque chaque jour, prie le chapelet et met Dieu à la première place. Elle a à cœur non seulement de se nourrir de l'Évangile, mais d'en vivre vraiment. Son cœur est touché par Jésus abandonné. Et elle dira « Je veux le choisir comme mon premier époux et me préparer à sa venue, le préférer. » Elle entre alors dans la voie de l'amour et dompte petit à petit son fort caractère, devenant pleine d'attention aux autres et douce dans ses relations. Dans son union avec Jésus abandonné, elle trouve la force de ne pas répondre aux injustices qui lui sont faites, notamment de la part d'une de ses professeurs de lycée, qui fait qu'elle sera recalée. Certes, elle en souffre, mais se montre sereine et souriante devant les autres. Puis, la croix de la maladie vient se dresser devant elle en juin 1988. Son épaule commence à lui faire très mal. Elle passe des examens approfondis et il s'avère qu'elle souffre d'un ostéosarcome, une forme particulièrement douloureuse du cancer des os. Commence alors le chemin de croix des examens, hospitalisation, thérapie, intervention. Chiara espère guérir. Elle garde son beau sourire et toujours son attention aux autres. Elle passe ainsi beaucoup de temps avec une jeune droguée qui est dans la chambre voisine à l'hôpital. Avec elle, elle fait des longues promenades dans les couloirs. Les mois passent. Lors de sa première séance de chimiothérapie, elle prend soudain toute la mesure de la gravité de sa maladie. Elle rentre chez elle livide. Elle refuse de parler à sa mère. Et s'isolant dans sa chambre, elle demeure prostrée sur son lit. 25 minutes plus tard, elle se tourne vers sa mère souriante et lui dit « Maintenant, tu peux parler. » Chiara vient de participer à l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Elle vient de donner son oui sans réserve à la volonté de Dieu. et à partir de ce moment-là, elle ne regardera plus jamais en arrière. Dans son cœur, le sacrifice est consommé. Le sourire qui la caractérisait depuis toujours revient sur ses lèvres. Sachant désormais où elle va, Chiara commence une véritable ascension spirituelle, fruit de toute sa vie de prière et d'amour de Dieu. Malgré sa souffrance permanente, elle ne se plaint pas. Durant ses 17 mois de calvaire, elle redit chaque jour son oui à Jésus abandonné, dont elle garde l'image près de son lit. « Si tu le veux, Jésus, moi aussi, je le veux. » C'est là sa prière, son fiat face à la souffrance, aux infirmités qui arrivent, notamment la paralysie progressive de ses jambes. Elle répète souvent à ses parents que chaque instant est précieux et qu'il ne faut pas le gâcher. « La douleur, il ne faut pas la gaspiller, dit-elle. Elle a un sens si on en fait une offrande à Jésus. » Chiara ne se replie pas sur elle-même, sur sa douleur. Elle reste missionnaire dans l'âme. D'ailleurs, elle voulait faire des études de médecine pour soigner les enfants d'Afrique. Elle ne peut plus aller vers les autres, mais c'est le monde qui vient à elle dans sa chambre d'hôpital. Et les rencontres sont joyeuses et même chantantes. Monseigneur Maritano, l'évêque dont elle dépend, vient la voir plusieurs fois. Et ensemble, il recommande à Dieu les jeunes du diocèse. Elle faisait preuve, dira-t-il, d'une maturité humaine et chrétienne au-dessus de la norme. La diminution de ses capacités physiques donnait plus de relief à sa force d'âme indomptable, soutenue sans aucun doute par la grâce. Cette grâce lui donnait la certitude de la vraie vie, de la rencontre avec le Seigneur, sans hésiter, tout au long de l'évolution de la maladie. Chiara a vraiment vécu l'espérance chrétienne. C'est très beau ce que cet évêque a perçu de la jeune Chiara. La vertu d'espérance poussée jusqu'à l'héroïcité. Et par cette vertu, Chiara a entraîné ses propres parents dans une ascension spirituelle aussi, dans la reconnaissance de l'amour de Dieu au-delà de la souffrance. Les médecins en étaient tout étonnés et je dirais évangélisés. « Nous n'arrivions pas à comprendre, dira l'un d'eux, pourquoi ils n'étaient pas désespérés. Ils étaient trois, mais je ne voyais qu'une seule personne. » C'est étonnant, n'est-ce pas? Chiara, avec ses parents, était tellement unie dans un même amour de Dieu, dans une même profondeur de vie chrétienne, dans une même espérance de la vie éternelle, qu'ils ne semblaient plus qu'un. Quel témoignage! Voyez, l'évangélisation, ce n'est pas seulement aller à la rencontre des gens dans la rue pour leur parler de Jésus, mais c'est d'abord vivre des vertus théologales dans notre vie quotidienne, dans les épreuves, avec une telle intensité d'amour que cela rayonne sur les autres et que cela les interpelle puissamment. À cette époque de son épreuve, la fondatrice des Focolari lui donne un nouveau nom, selon l'usage de cette communauté. Chiara Luce. Luce, c'est-à-dire la lumière. Et de fait, Chiara rayonne. En elle transparaît celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Et Chiara utilise ses dernières forces pour préparer avec sa mère et ses amis la fête de ses noces, comme elle l'appelle. Elle choisit les lectures et les chants de sa messe, non d'enterrement, mais d'anciellement. Puis elle choisit la robe blanche avec la ceinture rose dont elle veut être revêtue pour ses épousailles avec Jésus. Et Chiara s'éteint paisiblement, entourée de ses parents, le 7 octobre 1990. Elle n'avait pas encore tout à fait 19 ans. Ses dernières paroles sont pour sa mère. « Ciao, sois heureuse, parce que je le suis. » Puis elle étreint la main de son père et elle va rejoindre son Seigneur. Alors ses parents s'agenouillent au pied du lit. Ils récitent le credo, manière de redire leur foi indéfectible à Dieu. Et inspirés par les paroles de Job, ils ajoutent « Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a reprise, béni soit son saint nom. » 2000 personnes assistent à ses obsèques, à son mariage avec Jésus. Très vite, le rayonnement de Chiara dépasse les frontières de l'Italie. De nombreuses grâces sont accordées par son intercession. Chiara a tout espéré et l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Romains. Chiara Luce avait la certitude d'être immensément aimée de Dieu. Sa confiance et son espérance inébranlable en la bonté divine lui donnaient l'assurance que Dieu ne peut choisir pour nous que le bien, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme le dit encore saint Paul. Qu'elle nous aide par sa prière à nous abandonner complètement à la volonté de Dieu, à son amour qui sait tout, qui peut tout, et qui nous a préparé une place auprès de lui dans la gloire.